Et à la une de l'heure du crime, l'affaire Éric Kallers, l'histoire d'un crime commis il y a 17 ans dans un petit village du nord de la France, dans des circonstances qui n'ont pas permis aux gendarmes de la section de recherche de Lille, chargés de l'enquête, d'identifier formellement le coupable. Le 2 novembre 2001, à Bune, donc, dans le Pas-de-Calais, un petit village proche de Béthune, Éric Kallers s'est abattu d'une balle dans le dos devant sa porte, alors qu'il vient de rentrer du travail et qu'il s'apprête prête à changer une roue de sa voiture. Personne n'a rien vu, rien entendu, aucune douille n'est retrouvée sur la scène de crime. Il restait cependant, jusqu'à aujourd'hui, un suspect numéro un, mis en examen 4 mois après les faits pour assassinat, qui a passé 2 ans en prison, puis qui a été relâché et qui continuait à nier pendant toutes ces années toute implication dans l'affaire. Il a continué à clamer son innocence. Cet homme témoigne ce soir dans l'heure du crime sur le calvaire qu'il a enduré tout au long de ces longues années avec ses avocats, maître Hubert Delarue et maître Mario Califano. Nous allons vous raconter en détail cette histoire. Nous allons vous revenir évidemment sur tous les éléments du dossier, sans oublier qu'un assassin est toujours en liberté.
20h-21h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime, avec un dossier bien sûr qui a été préparé par Justine Vigneault avec Émilien Vinet. C'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à ce drame qui s'est déroulé en novembre 2001. Et je le disais il y a un instant, un suspect numéro un demeurait dans ce dossier, un homme mis en examen à l'époque 4 mois après les faits et qui vient de bénéficier d'un non-lieu, donc 17 ans. Il a été blanchi définitivement par la justice. Il reste donc effectivement un auteur de ce crime jamais élucidé. Nous allons en parler avec vous, maître Hubert Delarue. Bonjour.
Bonsoir.
Du barreau d'Amiens. On aura votre confrère maître Mario Califano du barreau de Lille tout à l'heure, hein, puisque vous êtes les deux avocats, les deux défenseur de cet homme, et là le terme de défenseur prend vraiment tout son sens. Et puis nous aurons Jean-Michel Leblanc, c'est le nom de cet homme qui va nous raconter véritablement, enfin je dis pas ça pour faire pleurer dans les chaumières, mais c'est 17 ans de calvaire, quoi, parce que quand une accusation aussi terrible pèse sur quelqu'un, c'est épouvantable.
2 ans de détention, 15 ans de contrôle judiciaire, d'obligation, et puis cette affaire qui pesait au-dessus de ses épaules. Alors que cet homme, la justice vient enfin de le reconnaître après quasiment 17 années de procédure, c'est un combat judiciaire sans précédent, vient enfin définitivement d'innocenter cet homme.
D'un mot, maître Hubert Delarue, avant de rappeler ce que je vais faire dans un instant, les circonstances de ce drame, est-ce que l'affaire peut repartir? Est-ce que l'instruction est toujours ouverte?
Le crime n'est pas prescrit. C'est-à-dire que la justice peut effectivement reprendre le dossier. Ceci étant, 17 ans après, c'était des faits de 2001, nous sommes en 2019 quasiment, il y aura évidemment 18 ans maintenant que les faits se sont déroulés. Je pense que ça risque d'être compliqué, surtout qu'un certain nombre de pistes n'ont pas été suffisamment creusées et je crains qu'aujourd'hui, malheureusement, il soit peut-être un peu tard.
Bien, nous reviendrons sur l'ensemble de ce dossier avec vous donc et avec maître Califano et avec le témoignage de Jean-Michel Leblanc au cours de cette émission. Tout de suite, je vous propose simplement de vous rappeler les circonstances de ce drame. Éric Kallers, ouvrier ajusteur à l'usine de la cristallerie d'Arc, âgé de 40 ans, est donc assassiné devant chez lui, à Bune, cette petite ville du Pas-de-Calais, non loin de Béthune, le vendredi 2 novembre 2001. Ce jour-là, un collègue de travail, Bruno Havet, dépose Éric Kallers devant chez lui. Il est 21h30. Éric constate aussitôt que les deux pneus de sa voiture, qui est garée devant chez lui, cette voiture, côté conducteur, garée donc le long de la rue, les deux pneus sont à plat. Il entre dans la maison, il dit à Cécile, son épouse, et à son fils Rémi, qu'il ressort quelques instants pour examiner les pneus de plus près. Peu après, ne voyant pas Éric revenir, Cécile, son épouse, sort donc à son tour de la maison et elle le trouve allongé sur le dos dans la rue, le long de sa voiture, agonisant. Les pompiers, appelés immédiatement, arrivent sur place pour constater la mort d'Éric. L'autopsie, réalisée au centre hospitalier de Lens, révèle qu'il n'y a qu'une seule blessure causée par une balle de 22 longs rifles qui a touché Éric Calers dans le dos et qui a perforé ensuite une artère, l'aorte. Il est donc mort presque sur le coup à la suite d'une hémorragie massive. La trajectoire de la balle de bas vers le haut indique aux enquêteurs qu'il a donc été atteint alors qu'il était accroupi devant les pneus. Autre élément, les analyses toxicologiques mettent également en évidence des traces de tranquillisants dans le sang de la victime. Et ses proches ne comprennent pas, ils ne trouvent pas de raison pour laquelle cet homme pouvait consommer à cette époque des anxiolytiques. Les experts balistiques, de leur côté, établissent par ailleurs qu'il y a eu au total 6 balles tirées. En plus de celle qui a tué Éric, une balle perdue est retrouvée dans la carrosserie de la voiture. 2 autres balles ont été tirées sur chacun des 2 pneus. Le tireur était donc vraisemblablement couché dans le fossé entre la route départementale et la rue. Aucune douille n'est trouvée sur place, personne n'a entendu de coup de feu. Un voisin qui promenait son chien ce soir-là affirmera qu'à 21h23, il est passé à côté de la voiture d'Éric et que les pneus de cette voiture étaient intacts. Ce guet-apens et la précision des tirs, le fait que personne n'ait rien entendu, font penser immédiatement à une exécution par un tireur professionnel. Mais l'arme du crime et la personnalité d'Éric ne correspondent pas à ce scénario. Alors peut-être s'agit-il d'autre chose, la vengeance d'un voisin ou d'un proche par exemple. Les enquêteurs recherchent donc dans l'entourage de la victime une carabine 22 longs rifles qui pourrait être l'arme du crime. Mais aucune des carabines qu'ils retrouvent ne correspond avec les balles. Élargissant alors le cercle des suspects potentiels, les enquêteurs découvrent qu'un voisin des Calers, un policier de la brigade des stupéfiants, se sent menacé par des personnes du milieu toxicomane sur qui il a mené des enquêtes. Alors une erreur sur la personne. Mais Éric Calers ne ressemble pas du tout à ce policier. Il est donc improbable qu'il ait été tué par erreur. Pour sa part, son épouse Cécile déclare aux enquêteurs que peu de temps avant l'assassinat, elle a eu une courte aventure extra-conjugale avec un collègue de travail, un boucher de la région. Cet homme est à l'opposé d'Éric, machiste, très endetté, ayant fait l'objet de plusieurs plaintes pour violence conjugale, mais il fournit aux enquêteurs un alibi. Autre piste, quelques semaines avant d'être tué, Éric avait souscrit une assurance vie au bénéfice de son épouse et de son fils pour un montant, disait-on, pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros. Explication, le 15 septembre précédent, 2 mois avant son assassinat, il avait oublié un jour de débrancher correctement une friteuse électrique, ce qui avait provoqué un incendie ayant ravagé une partie de la maison. Et depuis, Éric avait été bouleversé, il était culpabilisé d'avoir mis en danger sa famille, et depuis lors, il semblait, disent les proches, soucieux, inquiet. Il avait d'ailleurs informé sa mère et sa sœur Brigitte au sujet de cette assurance-vie, alors que Cécile, elle, déclare aux enquêteurs avoir découvert l'existence de cette assurance-vie après l'assassinat. Mais elle aperçut en réalité un peu plus de 80 000 euros, une somme bien inférieure à celle qui avait été évoquée. Les enquêteurs s'intéressent ensuite à Jean-Michel Leblanc, le beau-frère d'Éric, qui leur déclare ne pas posséder d'armes à feu. C'est un mensonge. Sa femme, Françoise, confirme ses déclarations pourtant. Mais un voisin affirme que Jean-Michel a des armes chez lui. Les Leblanc sont alors mis en garde à vue et ils finissent par avouer qu'ils ont bien 2 armes, dont une carabine 22 longs rifles. Et dans un sac poubelle, les enquêteurs vont trouver également des morceaux d'une carabine 22 longs rifles cassée. Ils ne sont pas non plus convaincus par l'alibi que leur fournit Jean-Michel. Enfin, l'expert en balistique nommé par le juge, sur lequel nous allons longuement revenir dans cette émission, établit très vite que la balle qui a tué Eric, il est catégorique, a bien été tirée par la carabine de Jean-Michel Leblanc. Malgré l'absence de mobile, le 17 février 2002, Jean-Michel Leblanc est mis en examen pour meurtre avec préméditation et il est mis en détention provisoire à la prison de Béthune. Il y passera 2 ans. Pendant tout ce temps, il continue à clamer son innocence. Les défenseurs de Jean-Michel Leblanc finissent par obtenir une deuxième expertise de la carabine. Le 22 juillet 2002, les conclusions de cette nouvelle expertise sont aussi catégoriques. Elles sont totalement opposées à celles de la première expertise. La balle qui a tué Eric n'a pas été tirée par les débris de carabine trouvés par les enquêteurs à son domicile. Mais pourtant, rien ne change pour Jean-Michel. Il lui faudra attendre donc 17 ans, presque 18, pour bénéficier enfin d'un non-lieu définitif. Nous entendrons tout à l'heure son témoignage sur ses années de calvaire et on n'oubliera pas qu'une question se pose toujours concernant cette affaire. Qui a tué Eric Kallers et pourquoi ?
L'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
Avec Maître Hubert Delarue, dans un premier temps, nous allons revenir sur les éléments du début de l'enquête sur cette affaire. Il y a beaucoup de questions qui se posaient à l'époque et qui se posent d'ailleurs toujours encore aujourd'hui, Maître Delarue. Il faut dire que ça se passe donc à Bune, c'est un petit village de 1200 habitants, à 20 km de Béthune. Donc Eric Kallers, lui, c'est un ouvrier ajusteur à cette usine de la cristallerie d'Arc. C'est un homme sans histoire, il vient d'un milieu, ses parents étaient cultivés. Cultivateur, je crois. Voilà. Donc, en fait, c'est un homme qui, a priori, n'est ni menacé, ni n'a de conflit avec quiconque à l'époque.
A priori, certaines pistes ont été creusées. Est-ce qu'elles l'ont été suffisamment ? En tout cas, au bout de ces 18 années de procédure, on sait une chose, la thèse de l'assassinat et la thèse du guet-apens a fait long feu. Pourquoi ? Tout simplement parce que personne ne sait à quelle heure Eric Kallers va rentrer chez lui. Il est raccompagné par un camarade. Ouais. En second lieu, quand il arrive, il regarde sa voiture, qui d'ailleurs est en vente. Il remarque, paraît-il, un pneu crevé, mais il rentre dans la maison. Ouais. Est-ce qu'il va ressortir ?
Ouais, oui.
C'est ça.
Qui pouvait le prévoir ?
Qui peut prévoir ? Qui peut prévoir ? Sinon, celui qui l'attendait aurait tiré dessus immédiatement, en le voyant arriver, descendre de la voiture du camarade, et aurait pu évidemment tirer sur lui. La deuxième chose, qui est très interpellante, mais on n'a pas la réponse. 5 balles sont tirées en réalité, et 7 impacts dans la voiture. Mmh. Dieu que le tireur était maladroit. Ouais. Dieu que le tireur était maladroit. Il y a des balles à droite, il y a des balles à gauche, il y a des balles en haut, il y a des balles en bas, et il y en a une qui va malheureusement atteindre cet homme, ouais. Et cette balle sera mortelle.
Voilà. Et elle aurait pu ne pas être mortelle, a priori.
A priori.
Elle a été très étudiée voilà. Au cours de l'autopsie,
tout à fait.
Etc. C'est vraiment la fatalité, là.
Parce on ne sait pas où était le tireur, on a dit il est là, puis il est là-bas, où sont les douilles, etc., etc. Puis je pense que là, ce qui va arriver à ce malheureux Leblanc, d'abord c'est ce mensonge, mais qui paradoxalement, nous l'aurons, on va le sauver, mais c'est surtout la médiocrité du premier expert. Alors, qui est en réalité un médecin légiste, qui est un médecin légiste à qui on va confier une mission balistique. C'est quand même pas son job.
C'est quand même rare dans une affaire criminelle.
Un légiste à qui on confie une mission balistique, moi j'ai jamais vu ça en 40 ans de métier. Et il va dire, finalement, l'arme qui a été retrouvée chez Leblanc, c'est l'arme du crime. S'il n'y a pas de contre-expertise et s'il n'y a pas des experts de qualité, eh bien Leblanc, il est vraiment en mauvaise posture. Ouais. Heureusement, on va avoir, vous l'avez rappelé tout à l'heure, une vraie contre-expertise et là, c'est pas l'arme du crime.
Alors, on va revenir sur les expertises, les contre-expertises, sur le mensonge de Jean-Michel Leblanc qui va peser sur lui d'une manière extrême, évidemment, pendant toutes ces années. Je voudrais avoir le sentiment général aussi de Maître Mario Califano, du barreau de Lille, donc qui est en ligne avec nous tout au long de l'émission. On peut dire que vous êtes l'avocat historique de Jean-Michel Leblanc, vous êtes son avocat et vous assurez sa défense dès qu'il est mis en examen. Maître Delarue va vous rejoindre, je crois, après la sortie de prison de Jean-Michel Leblanc. Vous-même, alors, votre sentiment par rapport à ce que vient de dire Maître Delarue sur l'affaire en général ?
Ah bah c'est évidemment un sentiment partagé avec Hubert Delarue. Je disais à votre collaboratrice Justine que ce dossier m'a accompagné plus de la moitié de ma carrière professionnelle. J'ai 33 ans de barreau et ça fait un peu plus de 17 ans que je suis ce dossier. Donc c'est dire si il a compté, il est important pour moi et surtout dans la mesure où il connaît une fin heureuse. Mais imaginons que moi qui l'accompagnais lors de sa garde à vue et lors de sa mise en examen, les éléments dont nous disposions à l'époque, c'est-à-dire le mensonge devant Michel Leblanc qui est avéré sur la possession d'armes à feu, une expertise balistique réalisée alors en deux temps, dans un premier temps de manière un peu sommaire pendant le temps de la garde à vue, pendant la période de garde à vue, qui laisse entendre que ce pourrait être l'arme du crime, mais qui est ensuite confirmée par un rapport d'expertise beaucoup plus formel et circonstancié, celui-là, sont autant d'éléments, je ne vais pas dire accablants, ouais, notamment aujourd'hui, mais qui à l'époque, en tout cas, apparaissaient aux yeux du juge d'instruction comme étant largement suffisant à faire de Jean-Michel Leblanc le suspect idéal.
Ouais. Alors, on va dans un tout petit instant, après la prochaine pause, revenir vraiment là, cette fois-ci, au cœur de ce qui a concerné Jean-Michel Leblanc. Mais encore une question, Maître Hubert Delarue. Personne n'a rien entendu. On n'a pas entendu les coups de feu. Il y a ce côté guet-apens qui a fait penser à un tireur professionnel et pourtant un peu maladroit, comme vous.
Très
comme
maladroit.
Comme vous le dites, oui, très maladroit, mais les balles peuvent ricocher. Enfin bon, voilà, c'est très complexe comme affaire. Mais vraisemblablement, l'arme était dotée d'un silencieux.
Écoutez, c'est encore une énigme de cette procédure. Ouais. Bah oui, il y a beaucoup de voitures qui passent, il n'y a pas grand monde qui est dehors, tout le monde est rentré chez soi, c'est calfeutré. Ouais. On est quand même, je crois, au mois de novembre, c'est pas une période extraordinaire,
oui,
il fait nuit,
il
fait froid, personne ne se balade dehors, et effectivement, personne ne va entendre. Rappelons quand même que le tireur serait à combien? 10 mètres? 12 mètres? Vraiment maladroit, le tireur. Hein.
Ouais.
Vraiment maladroit.
Pour fermer l'autre piste qui était suivie à cause de ce policier qui était spécialisé dans les affaires de stup et qui lui-même pensait qu'il pouvait être l'objet d'une vengeance dans le milieu toxicomane, il y a un jeune toxicomane, je crois, qui a été dans le collimateur des enquêteurs pendant un certain temps, mais il a été mis hors de cause.
Il a été mis hors de cause. Il y a cette thèse, ça, on s'est trompé de personne. Puis il y en a une autre, c'est qu'on a découvert dans l'environnement de la propriété de M. Calers, tout un tas de gens, on ne les a pas tous identifiés, des tireurs fous, c'est-à-dire des types qui font des cartons, comme ça, le soir chez eux, pof, ils tirent. Bon. Ouais. Et nous, une des thèses qu'on a, mais Mario pourra peut-être dire son mot, c'est qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui que finalement, ça soit tout simplement la faute à pas de chance d'un espèce de tireur isolé, un peu cinglé, qui tire à hauteur d'homme. Voilà. Cet impact 5 balles, 7 impacts sur la voiture.
Ouais.
Bah, franchement, pour finalement n'être atteint, malheureusement, ce pauvre homme que d'une seule balle.
Alors, une pause tout de suite, et puis ensuite, avec vous et avec Maître Califano, on revient vraiment sur ce qui a conduit un juge d'instruction à considérer que Jean-Michel Leblanc pouvait être mis en examen pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation.
L'heure du crime. Jacques Pradel. Sur RTL.
À la une de l'heure du crime, donc l'affaire Éric Calers, et avec cette affaire dans l'affaire, puisque ce crime est aujourd'hui près de 18 ans après les faits, toujours non résolu. L'affaire dans l'affaire, c'est la mise en examen, 4 mois après les faits, du beau-frère ou d'un beau-frère d'Éric Calers, Jean-Michel Leblanc, dont nous aurons tout à l'heure, qui prendra tout le temps que nous lui avons bien sûr réservé, pour nous raconter comment on vit ce genre d'injustice, puisque que lui, il clame son innocence depuis le début, mais il n'a pas réussi à convaincre ni les enquêteurs, ni le juge d'instruction. Et on va revenir sur les raisons de cette mise en examen avec vous, Maître Mario Califano, puisque tout commence par cette perquisition chez Jean-Michel Leblanc. Et il faut bien le dire, appeler les choses par leur nom, ce mensonge qu'ils font aux enquêteurs, lui et son épouse.
Absolument.
Comment ça se passe, la découverte de cette arme?
Elle est réalisée dans le cadre d'une perquisition le 15 février 2002. Mmh. Il se trouve que les enquêteurs ont des doutes sur les précédentes déclarations de Jean-Michel Leblanc, puisque toute la famille et tout l'entourage a été interrogé sur l'éventuelle possession d'une arme à feu compatible avec la balle retrouvée dans le corps d'Éric Kahler. C'est Jean-Michel Leblanc, conforté par son épouse et son fils d'ailleurs, Pierre, ont toujours déclaré jusqu'alors qu'ils n'avaient pas d'arme à feu à leur domicile. Sauf que ils en ont une, au moins une, même plusieurs en fait.
Mais c'était quoi la raison que...
C'est simplement une arme à feu de type 22 long rifle nécessite une déclaration en préfecture.
D'accord.
Ce que Jean-Michel Leblanc, comme beaucoup de possesseurs de ce type d'arme à feu, avait négligé de faire.
D'accord. Oui.
Et
il s'est dit, je vais avoir des problèmes. Voilà.
Il ne souhaitait absolument pas avoir à déclarer aux gendarmes, sans mesurer les conséquences de ce mensonge, bien évidemment, il n'avait pas effectivement déclaré cette arme à feu.
Ouais. Alors, on va trouver une carabine 22 long rifle, et puis on va trouver les débris d'une carabine qu'il a voulu détruire. Mais il a une explication à la présence de cette arme chez lui.
Mais en réalité, je pense que Jean-Michel Leblanc a compris, notamment après sa deuxième audition en tant que simple témoin, que les enquêteurs avaient des doutes concernant la possession d'armes à feu qu'ils démentaient. Et c'est vrai qu'il était entré en possession 10 années plus tôt dans des conditions un peu scabreuses lors d'un déménagement.
Déménagement d'un ancien gendarme ou quelque chose comme ça.
Absolument, ouais. Monsieur Dumont. Monsieur Dumont. Il est entré en possession de cette arme, c'est pas la peine d'en dire plus. Et elle lui brûle un peu les doigts pour les raisons qui résultent des conditions dans lesquelles il se l'est approprié.
D'accord.
Voilà.
Et alors donc il entreprend de détruire cette arme à ce moment-là, après le meurtre d'Éric alors.
Avant ou après
le meurtre d'Éric, il entreprend non pas de la détruire, mais de la démonter.
Oui.
Et puis de la démonter de manière. Alors c'est vrai qu'il signe un bout du canon, il démonte quelques. C'est un bricoleur, donc il démonte quelques pièces, quelques ressorts, quelques vis, etc. Que les enquêteurs vont d'ailleurs retrouver, ce qui, à mon avis, est d'ailleurs la démonstration de ce qu'il n'avait aucune intention de faire disparaître cette arme à feu.
Oui, bien sûr. Voilà donc les raisons, c'est ça, Hubert Delarue, c'est le point de départ de toute l'affaire.
Ben c'est le point de départ, voilà, ça part sur un mensonge, et je pense que Mario pourra le dire également. Paradoxalement, c'est ce mensonge qui va l'innocenter, puisque dans l'arrêt qui est rendu par la cour d'appel d'Amiens, et qui va l'innocenter, et qui va dire il n'a pas lieu de le renvoyer devant une cour d'assises, il va être dit, il cache la détention de deux armes, qui ne peuvent l'incriminer, puisqu'en réalité, la contre-expertise va démontrer qu'aucune des deux armes qu'il aurait cachées n'a pu, ni de près ni de loin, participer à la mort d'Éric Kahler.
Ouais. Alors, je vous propose de faire une pause, parce qu'on va revenir quand même longuement maintenant sur cette expertise qui va aggraver évidemment le cas ô combien de Jean-Michel Leblanc, puisque cet expert ancien médecin légiste, là on va revenir là-dessus, je voudrais bien vous entendre là-dessus aussi, Maître Califano.
J'en ai à dire.
Donc, quelques secondes de patience et on vous donne tout loisir de nous expliquer ça en détail.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors, je reviens à vous, Maître Califano. Évidemment, Hubert Delarue intervient quand il le souhaite. Parlez-moi maintenant, je ne vous pose qu'une question ouverte, parlez-moi de cette histoire d'expertise.
Elle est assez formidable, comme le disait Hubert tout à l'heure, c'est que la justice fait confiance à ses experts. Pour tout ce qui est technique, le juge d'instruction, évidemment, s'entoure d'experts. Alors, il y a des médecins légistes pour déterminer les conditions de la mort d'une personne ou des blessures dont elle a été victime. Et puis, il y a des experts techniques qui font le boulot d'expertise d'une arme, par exemple, c'est l'expert en balistique. Moi, j'ai aucune raison de douter, a priori, de la validité de l'expertise. Mais ce qui me marque en même temps, parce qu'évidemment, je confronte ces éléments techniques avec ce que me dit mon client, c'est que j'ai quelqu'un, Jean-Michel Leblanc, qui est extrêmement déterminé dans l'affirmation qu'il n'a rien à voir avec ce crime. Et donc forcément, ça me trouble. Et donc je fouille un peu plus loin et je me rends compte, le dossier est déjà volumineux, que celui qui a réalisé l'expertise balistique n'est autre que le médecin légiste qui a également pratiqué l'autopsie sur le corps d'Éric Kallers.
Ah, ça, c'est énorme.
Forcément,
c'est énorme.
Je suis un peu interpellé, si je puis dire, par ce mélange des genres. J'essaye d'en savoir un peu plus sur cet expert. Je m'aperçois qu'il a effectivement un diplôme en balistique lésionnelle. Donc en balistique lésionnelle, ça veut simplement dire qu'en tant que médecin, il est capable de savoir
quel type d'arme a été utilisée
pour provoquer telle blessure. Mais qu'en aucun cas, il n'est un expert balisticien.
Et oui, bien sûr.
Et donc, évidemment...
Et donc lui, de bonne foi, cet homme de bonne foi va dire c'est la même arme.
Mais la faute de Gradel, c'est quand même le juge d'instruction. Je crois que Mario sera d'accord, c'est le fait de confier une expertise balistique qui a une importance capitale, puisque l'arme a été cachée et on a nié l'avoir eue en main, et on va désigner un expert qui, malheureusement...
n'est pas compétent.
Et c'est sur la base de ce mensonge, d'une part, et de cette expertise, que cet homme part en prison. Et s'il n'y a pas cette contre-expertise qui va être confiée à un expert compétent, d'ailleurs, son nom ne me revient plus, mais je l'ai côtoyé bien des fois devant les cours d'assises, qui va dire, mais cette arme n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec la balle qu'on a retrouvée dans le corps de Kallers.
Alors, il faut dire, Maître Califano, que, donc, à la suite de cette expertise, Jean-Michel Leblanc est donc mis en examen pour assassinat, et qu'il va être incarcéré, et son incarcération va durer, je crois, à peu près 2 ans.
Mais
la contre-expertise, et maintenant je voudrais que vous me parliez de cette contre-expertise, elle va intervenir alors que Jean-Michel Leblanc est toujours en prison.
Oui,
et ça ne va pas le faire libérer pour autant.
C'est ça qui est intéressant.
Ça ne va pas le faire libérer, et au contraire, on a un juge d'instruction qui est la justice a horreur de se tromper, qui est assez entêtée d'une certaine manière, parce que il n'y a pas eu une deuxième expertise, il y a eu deux autres expertises.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à la suite des conclusions du second expert, qui était formel à considérer que il y avait une empreinte du canon qui ne pouvait absolument pas correspondre à la balle qui avait été retrouvée dans le corps. Moi, je me souviens avoir été discuté avec le juge d'instruction en disant, mais bien évidemment, c'est innocente. Et lui a alors considéré qu'une expertise en valait une autre et qu'il fallait donc désigner cette fois-ci un collège d'experts.
D'accord.
Et c'est le LIPS de Paris, le laboratoire de police scientifique de Paris, qui va être chargé d'une troisième expertise qui, bien évidemment, va confirmer la seconde. Mais ça n'est toujours pas suffisant aux yeux du juge d'instruction pour libérer Jean-Michel Leblanc.
Il reste en prison. C'est ça qui est vrai. Il y a cette expertise de consensus, en réalité, qui vient confirmer que ça n'est pas l'arme du crime. Et pourtant, il va encore rester de nombreux mois en prison avant que Mario, à la chambre de l'instruction, ne finisse par le faire sortir.
Alors, je me fais l'avocat du diable, si j'ose dire. Enfin, je ne veux pas confondre le diable, associer le diable à un juge d'instruction que je ne connais pas. Et bon, pour qui j'ai le plus grand respect.
Oui.
Mais je me permettrai, justement, en jouant l'avocat du diable, c'est de dire, mais finalement, cet homme, ce juge d'instruction, qui est certainement un homme intègre et qui est attaché à la manifestation de la vérité, il est certainement, lui, très sincèrement convaincu de la culpabilité de Jean-Michel Leblanc. Mais sur quoi d'autre peut-il se fonder? Parce qu'on peut se dire, après tout, il y a l'expertise balistique, mais il a une autre certitude parce qu'on a trouvé ceci ou cela. Par exemple, le mobile.
Oui, ben c'est ça qui est singulier, parce que Mario le sait aussi bien que moi, il n'y a pas de mobile. On a été rechercher une querelle il y a 10 ou 15 ans avant sur la vente d'un terrain, et la Chambre dira d'ailleurs, a fait litière de cet argument en disant, bon, ils sont les meilleurs amis du monde, il y a un alibi, pardon du peu, il est solide.
C'est-à-dire qu'à l'heure de l'assassinat d'Éric Kallers ou du meurtre d'Éric Kallers, Jean-Michel Leblanc...
Il est chez lui, il regarde la télé, sa fille qui est là, il y a son fils qui est dans la maison, il y a un ami du fils qui est là, et les minutages ont été faits. Comment est-ce qu'il aurait pu, alors qu'il était en pyjama avec ses chaussons en train de regarder la télé, que les enfants allaient dans la maison vaquer de droite et de gauche...
Mais ce sont des proches, on peut penser qu'ils ont été influencés ou qu'ils ont menti.
Non, mais...
mais parlons des choses...
Les enquêteurs s'en sont pas laissés compter, et quand même, oui. Par rapport à l'heure du crime, présumé, par rapport...
Crime, bon.
Oui. Par rapport à l'arrivée de son épouse à la maison, des minutages ont été faits très précis, et il aurait vraiment fallu qu'il ait couru le 100 mètres comme un champion du monde, parce que il fallait à la fois se rhabiller, il fallait aller chercher l'arme, il fallait partir, il fallait planquer, il fallait savoir qu'il allait ressortir de la maison.
Oui. Bien sûr.
Compliqué.
Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Maître Califano ?
Non, mais je voulais ajouter en premier lieu, s'agissant de l'arme, pour finir sur le sujet, que c'est son mensonge innocent, son mensonge initial innocent, parce que s'il est l'assassin de son beau-frère, il sait évidemment quelle arme il a utilisée pour tuer son beau-frère, et il n'a donc aucune raison de mentir sur la possession d'une arme à feu dont il sait qu'elle n'est pas l'arme du crime.
Ouais.
Donc le mensonge initial qui a été retenu à charge contre lui dans les premiers temps de l'enquête, c'est un élément déterminant à retenir, en fait, son innocence de ce crime. Parce que, très sincèrement, c'est quelqu'un qui est tout à fait équilibré, tout à fait intelligent, et aucune raison de mentir sur la possession de cette arme à feu pour la masquer aux yeux des enquêteurs, alors que s'il était l'assassin, il saurait pertinemment que, que ce n'est pas l'arme du crime. Et donc, il l'aurait livré spontanément aux enquêteurs.
Ouais.
Enfin, c'est une chose, mais... Derrière, Hubert Delarue a tout à fait raison. Le mobile fait défaut. Et puis l'alibi, dont on a dit un temps qu'il n'était pas qu'il n'était pas prouvé, que Jean-Michel Leblanc ne prouvait pas que, c'est quand même quelqu'un, rappelons-le, qui travaille, il est chef d'agence pour une société d'intérim.
Oui.
Il est très bien noté par ses supérieurs. C'est quelqu'un qui est sans histoire. Il est marié, il a trois enfants. Puisque vous parliez tout à l'heure de l'incendie de la cuisine d'Éric Calers, il a aidé son beau-frère à faire les travaux de réhabilitation de cette cuisine après qu'elle ait brûlé.
Oui, parce que l'incendie avait détruit une partie de la maison.
Meilleures relations du monde avec son beau-frère. Ils ont dîné ensemble le 1er novembre, si ma mémoire est exacte.
Ouais.
Donc, la veille ou l'avant-veille de l'assassinat ou du meurtre d'Éric Calers. Donc, si vous voulez, une fois que l'élément central qui tourne autour de cette arme à feu est détruit, il ne reste plus qu'un château de fable.
Mais alors, ça continue, Maître Hubert Delarue, à peser sur Jean-Michel Leblanc. On va en terminer par là, parce que dans quelques minutes, on va lui laisser le loisir de nous raconter comment lui, il a vécu tout ça de l'intérieur. Mais j'ai une question à vous poser très précise sur tout cela. Alors, je veux pas parler d'acharnement, mais on peut se poser la question quand même, parce que, en fait, toute l'enquête s'arrête quand il est mis en examen. On est bien d'accord, pas de langue de bois.
Non.
Bon, on cherche pas d'autres pistes,
et
etc.
Voilà.
Bon. Le temps passe. Qu'est-ce qui se passe en juillet 2017 pour que un non-lieu lui soit et qu'il bénéficie d'un non-lieu? Juillet 2017, on est au début 2019, il va y avoir un pourvoi, c'est-à-dire que les avocats de la partie civile vont s'élever contre cette décision de la justice, et ça n'est qu'il y a quelques semaines que le jugement a été, enfin le non-lieu a été vraiment définitif. Qu'est-ce qui se passe?
Je pense qu'il y a deux choses.
Qui décide de ce non-lieu en 2017?
C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens sur renvoi de la cour de cassation. Pourquoi? Parce que le juge d'instruction va en 2013, rendre une décision de non-lieu. Là, on n'a pas d'éléments. Bon. Cette décision, évidemment, est contestée par la famille Calers. Donc, on va à la chambre de l'instruction de Douai. Et là, la chambre de l'instruction renvoie Leblanc devant la cour d'assises pour assassinat. On fait un pourvoi en cassation, et la cour de cassation dit, non, c'est pas possible, il y a une contradiction de motifs, ça casse.
D'accord.
On renvoie à Amiens, et quand l'arrêt de 2017 tombe, la famille Calers fait un pourvoi.
Parce que, sincèrement, ils pensent
Jean-Michel Leblanc... Une partie de la famille Calers, attention, parce que
les familles
sont fracturées
avec
les deux tiers de la famille Calers sont plutôt du côté de Jean-Michel Leblanc. Et il ne reste que l'épouse et le fils qui, en réalité, vont s'acharner. Et puis la justice n'a pas la culture d'excuses. Elle a mis quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
Ouais. Vous disiez, Maître Califano, sera tout de suite après, on passera à la séquence la dernière séquence de l'émission.
Jean-Michel le confirmera. Il a bénéficié d'un comité de soutien qui s'est constitué ensuite de cette accusation ignoble.
Ouais.
Et une partie non négligeable, très importante, même de la famille d'Éric Calers, a fait partie de ce comité de soutien. C'est-à-dire s'il était aux yeux de ses proches, aux yeux de la des membres de la famille de la victime elle-même considérés comme étant le coupable improbable. Improbable.
Voilà. Eh bien, je vous remercie. Vous restez évidemment en ligne. Dans un petit instant, Jean-Michel Leblanc va nous dire comment il a vécu tout ça.
Jacques Pradel, l'heure du crime.
Et c'est la dernière partie de l'heure du crime, toujours avec Maître Hubert Delarue et Maître Mario Califano, les avocats de Jean-Michel Leblanc. Merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. On a voulu évidemment revenir sur toute l'affaire parce qu'elle est très complexe. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment vous, vous avez vécu tout cela, vous et votre épouse, votre famille.
Mais en même temps, je suis soulagé. Soulagé pour moi, pour toute ma famille qui a jamais cessé de me soutenir, et je pense que c'est ça qui m'a permis de survivre. Je peux bien parler de survivre, parce que c'est épouvantable, je le souhaite à personne, à qui que ce soit, ouais. De vivre un tel calvaire. Ouais. Et même encore maintenant, je pensais que, après le 14 novembre, je pensais que tout allait, la vie allait être belle, tout était... Eh ben non, j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à m'imaginer dans la suite. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est très, 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 très lourd pour moi.
Mais on l'évoquait il y a un instant, autour de vous, il y a eu beaucoup de solidarité de vos proches, il y a eu ce comité de soutien dans lequel certains membres de la famille, parce que les familles se sont opposées finalement à travers tout ça, chacun avait un peu son idée. Vous avez souffert de cette situation aussi,
oui.
J'imagine.
Hein oui. Oui, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Hein, j'ai toujours été, vous êtes, quand vous êtes pendant plus de deux ans mis dans un cagibi, oui. Hein, parce que c'est bien un cagibi, oui. vous demandez, vous n'avez, les éléments, vous avez, c'est très partiel les éléments que vous avez. Oui. Hein, heureusement que les avocats, que Maître Califano qui est là depuis le début, puis Maître Delarue qui est là aussi, oui. Hein, heureusement qu'ils étaient là. Heureusement qu'ils étaient là. Puis heureusement qu'il y avait mon épouse qui m'a soutenu, mes enfants, oui. Pour qui ça a été aussi un calvaire. Ça, mais j'ai eu un soutien, plusieurs centaines de personnes dans ce comité de soutien. Oui. Hein, avec des gens qui sont devenus des amis. Puis il y avait des amis qui étaient déjà là au début.
Au début, oui, bien sûr.
Ouais. Ah oui, depuis le début.
Ouais. Hein, Oui, vous aviez 50 ans hein, en 2001, vous en avez 67 aujourd'hui.
Exactement.
Alors j'imagine que ce dossier, vous l'avez désossé, trituré, étudié dans ses moindres détails. Est-ce que vous avez une idée sur soit les pistes qui n'ont pas été suivies par les services d'enquête, soit parce que vous êtes retrouvé dans une histoire incroyable, quoi. Vous. Parce que être persuadé de sa propre innocence est une chose, mais voir que les autres...
Oui. Je suis innocent. Je suis innocent. Je n'ai rien fait.
Eh oui. Mais alors, donc, à ce moment-là, est-ce que vous avez pensé, vous êtes dit, il faut que... quel est votre propre sentiment sur ce qui a pu se passer ?
Je n'en sais strict rien. Ouais. Je n'en sais strict rien. La seule chose que je sais... Et on va pas reparler des mensonges parce que ça commence et c'est un petit peu lourd quand même. Ben hein, oui. Pour moi, c'est un petit peu lourd.
Bien sûr.
Hein,
bien sûr.
Si peu, pourtant un tel résultat.
Ouais. Hein, ça prend des proportions absolument énormes alors
c'est
finalement il y avait une logique dans le fait que vous ayez dissimulé le fait d'avoir cette arme quoi en fait.
Tout à fait. Et je ne peux pas. Ça j'arriverai jamais à comprendre. Mais heureusement qu'il y a eu ma famille, oui. Mais quand je dis ma famille, c'est ma femme, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, et aussi le père et la mère d'Éric, les deux sœurs d'Éric, hein, qui m'ont toujours soutenu et qui me soutiennent toujours, hein, même si c'est plus simple maintenant, je le reconnais.
Depuis ce fameux 14 novembre, où là, vous avez une décision définitive de justice, et voilà, quoi.
Que j'ai même pas compris. Que quand j'ai lu, j'étais à mon ordinateur, et puis je regardais mes mails arriver, et puis je vois tout de suite, puis ça y est. Ouais. J'ai même pas compris la teneur des sept pages de la Cour de cassation.
Ouais, faut dire j'ai même la pas Cour de cassation, tout en haut, c'est pas toujours Roger. Facile à comprendre.
Hein. Ah oui, Roger, vous dites, Roger. Mais qui est rejeté. En fait, c'était la contestation.
Voilà, mais j'ai pas compris, rejeté. Puis je suis allé tout au bout, et tout au bout, j'ai vu, circuler, y a rien à voir. Ah, enfin. Mais maintenant, il faut l'avaler, il faut le diluer, c'est encore très difficile, je vous dis pas, ce soir, c'est très, très difficile pour moi.
Bien sûr. Ouais. Tout au long de ces presque 18 ans, quelle était la période la plus difficile pour vous ?
de loin l'incarcération.
Oui.
De loin. Même si c'était une petite prison, je ne vais pas dire familiale, j'aime pas le mot, hein,
oui.
Mais on connaissait tous les surveillants,
oui.
Et puis bon, j'y ai travaillé là-bas.
Oui,
mais on comprend oui. pas. Vous savez, avoir resté pendant presque 400 jours dans un endroit où il faut monter sur la table, hein, pour voir un peu l'air, la couleur du ciel,
oui.
ça fait long,
oui.
Ça fait long.
Bien sûr. Vous êtes resté dans la région ?
Non, pas du tout. On m'a
Ah oui, vous n'aviez pas, alors, vous n'avez pas le droit de rester dans la région.
Non, j'ai été. Comment je vais dire ? Un jour, alors j'ai plus les dates exactes. Ma
oui.
femme pourrait le dire.
Oui.
Elle est venue à la, elle venait me voir deux fois par semaine à la au parloir.
Oui.
Hein, et puis bah c'est tout comme ça. Ça s'est bien passé. Une demi-heure
oui.
après,
oui.
ben on remonte dans nos dans notre pigeonnier.
Oui.
Et puis je sais pas, peut-être une demi-heure après, une heure après, il y a un surveillant qui vient. Donc quand il y a un surveillant qui vient, souvent c'est pas des bonnes choses. Mais là, c'en était une bonne, m'a dit, tu fais ton sac. Comment je fais mon sac? Oui, tu t'en vas. Ah, une demi-heure après, bah, vous êtes dehors.
Oui.
Et puis bah, votre femme vous attend sur le trottoir d'en face.
Oui.
Seulement, ce que je savais pas, mais je l'ai su le lendemain ou le surlendemain, ça vaudrait demander à Maître Califano, parce qu'il oui. fallait lire tous les documents.
Oui. Oui.
Hein oui. On oui. m'expédiait là-bas, au fin fond de la Haute-Savoie, oui. chez ma sœur.
Voilà.
Hein, qui m'a accueilli, mais c'est magnifique, mais en plein hiver, moi, un homme du plat pays,
hein,
mais
sûr,
où est-ce que j'étais? Avec interdiction de revenir chez moi.
Bien sûr.
Hein, et écoutez, ça a duré, mais ça a... Oui. Heureusement, je veux dire, ce qui a été aussi, pour moi, énorme, c'est que mon entreprise m'a gardé son soutien et
ouais.
m'a gardé... oui, je suis
ça,
resté salarié
ouais.
de mon entreprise.
Ouais. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Jean-Michel Leblanc, parce que c'est à la fois difficile, bien sûr, d'évoquer tous ces mauvais souvenirs. En même temps, soyons positifs. Maintenant, bien voilà, vous avez la possibilité de tourner la page. Elle sera très dure à tourner, on l'a bien compris. Je vous remercie. Merci infiniment,
bonsoir.
En tout cas. Voilà,
bon.
L'émission est maintenant terminée. Merci infiniment,
voilà.
Hubert Delarue. Merci, Mario Califano.
Merci.
Et voilà, bon vent, Jean-Michel
voilà.
Leblanc.